Vous écoutez On lit pour vous.
Société à cran, ado à bout. Un texte de Louise Maude Rioux Soucy, publié dans Le Devoir. Nos adolescents sont au bout de leurs limites. À tel jeune, on va de record en record depuis la pandémie. Cette année, les demandes d'aide ont explosé de 20 % La moitié d'entre elles sont liées à des questions de santé mentale, contre 40 % l'an dernier. Et pas pour des peccadilles. Les problèmes que décrivent nos jeunes sont de plus en plus complexes, au point qu'une intervention sur 5 nécessite aujourd'hui une évaluation du risque suicidaire. Si le taux de suicide diminue légèrement au Québec depuis 2004, les visites à l'urgence et les hospitalisations pour une tentative de suicide ont bondi ces dernières années chez les jeunes. Ils ont besoin d'aide là, maintenant, comme plusieurs de leurs parents d'ailleurs, qui contribuent à faire monter les statistiques de tels jeunes. Sans oublier les pré-ados, récemment apparus sur les radars de l'organisme. Sur quel ton et avec quels mots faudra-t-il le répéter pour que l'on comprenne que notre société échoue à protéger ces jeunes et leurs familles? Les adolescents sont des éponges émotionnelles. En plus de composer avec leurs émotions en montagne russe, celles de leurs proches et de leur entourage, ils sont traversés par les irruptions de fièvre de nos sociétés hyperconnectées. Qu'on le veuille ou non, élever des ados en 2025, c'est le faire toutes fenêtres ouvertes sur une impatience, une intolérance, une hargne et une violence qui ne connaissent pas de repos. Mettre les cellulaires sous cloche à l'école a eu des effets sur les comportements prosociaux, la concentration et l'apprentissage. À l'abri des turpitudes du monde hyperconnecté, on a vu le retour en grâce des bibliothèques, une hausse des activités ludiques et sportives, des conversations allongées, des classes plus allumées. Mais il fallait être naïf pour s'imaginer que cela mettrait du même coup une soupape à l'intimidation et à l'exclusion. Le problème s'est déplacé. L'isolement, l'automutilation et les situations de violence liées à l'intimidation à l'école sont ainsi en forte croissance cette année, observe-t-elle jeune, dont la capacité d'agir est mise à rude épreuve. Cela vaut autant pour la violence verbale que pour la violence psychologique et physique à l'école, une triade qui revient aussi dans les demandes d'aide formulées après les heures d'école, particulièrement entre 16h et minuit, qui ont augmenté de 30 %. Le Far West du monde branché rattrape aussi nos jeunes dans la vie réelle, comme il le fait pour nous, qui leur tendons de bien sombres miroirs. Nos jeunes voient nos politiciens se crêper le chignon, avec décorum, à l'Assemblée nationale ou sans décorum sur X. Leur coup de sang roule sur TikTok ou Instagram, réduit à des mèmes féroces, drôles ou niaiseux. Idem pour les échanges corsés entre le gouvernement Legault et ceux qui en ont contre ses manières de mener le Québec à la baguette et au bâillon. Médecins, profs, syndiqués, groupes communautaires, environnementalistes, femmes, juristes, Alouette. Même dans l'intimité, les incivilités fuient de partout. Nos jeunes voient le voisin invectiver le sans-abri échouer dans son portique ou la chauffarde péter un plomb au centre d'achat. Eux-mêmes dérangent. On les voudrait moins sonores, moins grégaires. Même des marchands veulent les enrégimenter ou les chasser carrément de leur établissement. À vrai dire, il n'y a plus beaucoup de lieux où les adolescents peuvent se réfugier, ni beaucoup de monde pour leur tendre la main quand ils s'enfoncent. Au tableau de bord de Santé Québec, 67,5% des personnes ayant réclamé un service de santé mentale y ont eu accès dans le délai prescrit. Et pour les chanceux qui ont eu accès au service « Jeunes en difficulté », 64,1%. Ça en fait du monde entassé sur le portillon à attendre au-delà du raisonnable. Reste le privé, un luxe de plus en plus inaccessible dans un Québec où 36% des gens combattent une forme d'insécurité alimentaire selon un récent sondage léger. Les écoles sont tout aussi sous pression. Il manquerait toujours 97 psychologues et 151 psycho-éducateurs dans le réseau public. Sans compter le secteur du personnel de soutien, qui affiche 1135 postes à pourvoir. Quand se décidera-t-on à faire de nos jeunes, de leur éducation et de leur santé mentale une priorité nationale? On avait mis des espoirs dans les travaux de la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Au dépôt de son ambitieux rapport, en mai dernier, la commission transpartisane nous avait bien mis en garde. Le travail ne faisait que commencer. Depuis, silence radio. Personne pour porter le flambeau. Nos élus préfèrent se chamailler entre eux et avec tous ceux qui osent réclamer mieux pour eux et pour le Québec. On répète que nos ados ont besoin de renforcer leurs apprentissages socio-émotionnels et leur résilience numérique, mais c'est toute la société qui en aurait grand besoin. Une société à cran fabrique des ados à bout. Tant que nous ne nous prendrons pas en main, nous n'aurons pas ce qu'il faut pour les empêcher de tomber, ni pour les aider à se relever. C'était Société à cran, ado à bout. Un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, publié dans Le Devoir.
Visite rare d'un grand-duc au Jardin botanique de Montréal. Un texte d'Alexandre Shields paru dans Le Devoir. Il était perché en hauteur et au plus près du tronc d'un grand conifère d'un secteur du Jardin botanique de Montréal. Le Devoir a tout de même eu la chance de photographier ce grand-duc d'Amérique, un rapace imposant qui est passé maître dans l'art de se fondre dans le décor des zones boisées, tandis qu'il se reposait en plein jour avant de reprendre ses activités nocturnes. Malgré un plumage qui lui offre un camouflage efficace en milieu naturel, Ce hibou doté d'aigrettes proéminentes et de grands yeux jaunes peut bien être visible, à condition de savoir qu'il est présent dans le secteur. Il faut dire qu'il peut atteindre une hauteur de près de 60 cm pour une envergure d'aile dépassant 1,5 m. Au Jardin botanique de Montréal, il a d'ailleurs suscité récemment, pendant quelques jours, le vif intérêt de certains des nombreux photographes animaliers qui fréquentent cet espace vert, propice à l'observation d'un large éventail d'espèces de la faune aviaire. Directeur général de l'organisme Québec Oiseau, Jean-Sébastien Guénette n'est d'ailleurs pas étonné de la présence de ce rapace nocturne au cœur de Montréal, même si les observations sont peu fréquentes. On peut l'observer en milieu urbain, mais il doit pouvoir retrouver une bonne densité d'arbres matures, comme c'est le cas dans certains parcs nature. Il peut d'ailleurs être difficile à repérer parce qu'il n'est pas actif dans le jour, sauf s'il se fait harceler par des corneilles qui veulent le chasser du secteur. Prédateur nocturne. Cet oiseau, dont le chant est en fait un ululement prolongé qu'on peut entendre la nuit en milieu forestier, est bien présent un peu partout au Québec, mais aussi dans plusieurs autres régions d'Amérique. Il a la particularité de pouvoir nicher dès le mois de février, donc en plein hiver, alors que la vaste majorité des espèces d'oiseaux ne vont pas débuter leur période de nidification avant le printemps et le retour du temps doux. Jean-Sébastien Guénette souligne par ailleurs que ce rapace est reconnu pour sa force et sa capacité à chasser des proies imposantes, surtout pour un oiseau dont le poids maximal avoisine le 1,5 kg, voire 2 kg. Ce sont des oiseaux très puissants qui peuvent s'attaquer à des proies de bonne taille, comme des lièvres. Il y a eu aussi des cas où on a vu des attaques sur des renards. Sur la Côte-Nord, mais aussi dans d'autres régions de la province, des attaques de grands-ducs sur des chats ou des petits chiens ont également été recensées au fil des ans, même si le phénomène demeure rarissime. Dans certains cas, il pourrait s'agir davantage de réflexes de protection des oisillons. En plein jour, il opte toutefois pour le repos. Le grand-duc, que le devoir a observé au jardin botanique lors d'une journée très froide, n'a pas bronché lorsqu'un écureuil est passé tout près de lui. Il n'a pas non plus réagi ou effectué le moindre mouvement lorsque des mésanges à tête noire et des sittelles à poitrine blanche sont venus se nourrir en sautant de branche en branche autour de lui. Protéger l'habitat. Contrairement à d'autres hiboux, comme le harfang des neiges ou le hibou des marais, la population du Grand-Duc d'Amérique n'accuserait pas de déclin marqué, indique M. Guénette, tout en précisant qu'il est plus difficile d'évaluer les effectifs d'oiseaux dont le mode de vie est essentiellement nocturne. Selon ce qu'on peut lire dans le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, les données disponibles indiquent néanmoins une diminution probable de la population en raison de l'impact de l'activité humaine. On peut penser que l'étalement urbain et l'accroissement de l'agriculture intensive ont fini par avoir raison de certains territoires de nidification, précise l'ouvrage de référence sur la fauve aviaire qui insiste sur les impacts potentiels de la disparition des boisés en zone agricole. Ceux-ci offraient notamment des territoires de chasse intéressants pour ce rapace nocturne doté d'une vue et d'une ouïe exceptionnelles. Cet oiseau de proie souffre par ailleurs d'une mauvaise réputation en raison de sa capacité de s'attaquer même aux animaux de compagnie. Or, le Grand-Duc d'Amérique joue un rôle important dans les écosystèmes du Québec en raison de son statut de prédateur. La protection de son habitat est donc importante, rappelle Nathalie Jreidini, directrice de l'éducation au Zoo Écomuséum. L'institution utilise d'ailleurs deux individus de l'espèce qui sont en captivité depuis près de 20 ans et qui ne pouvaient pas être remis en liberté dans le cadre de son programme éducatif. Ils servent à sensibiliser les gens à l'importance de protéger la nature. C'était « Visite rare d'un grand-duc au Jardin botanique de Montréal ». Un texte d'Alexandre Shields paru dans Le Devoir.
ils n'aiment pas leur job et après. Un texte de Maude Goyer, paru dans la presse. À une époque où être performant et débordé est valorisé, ne pas aimer sa job demeure tabou. Pourtant, certains travailleurs l'assument. Leur passion est ailleurs, leurs priorités le sont aussi. Et contrairement aux idées reçues, ils sont sereins et heureux. Je ne travaille pas dans un milieu toxique et je ne manque pas de défis. Je suis compétente, je suis occupée, mais mon travail m'ennuie. Enfermée dans son bureau, dans un centre de services scolaires de la grande région de Montréal, Marie-Michel, qui témoigne sous le couvert de l'anonymat par crainte de réaction de son patron et ses collègues, lance ce cri du cœur à voix basse. Non, elle n'aime pas sa job. Mais elle ne veut pas que cela se sache. C'est mal vu de dire que ta job, ce n'est pas ta passion, dit-elle. Moi, je compte les années qu'il me reste. Je ne suis pas malheureuse, mais je ne suis pas heureuse. Je fais ce que j'ai à faire et ça paie les factures. Conseiller d'orientation depuis plus de 30 ans, Mathieu Guénette a longtemps pensé qu'il était impératif d'aimer son travail. Il fallait que ce soit passionnant, qu'on y évolue et qu'on s'y épanouisse. Avec la maturité et l'expérience, je remets cela en question, dit-il. On n'a pas tous les mêmes profils, on ne fait pas les mêmes choix, selon nos ancrages, entre autres. Des ancrages. Il fait référence au modèle des 8 ancres de carrière développé par le psychologue américain Edgar Schein à la fin des années 1970. Selon cette théorie, chaque individu est attaché à son travail et motivé par lui pour une raison en particulier, que ce soit l'autonomie ou la sécurité, le mode de vie, le dévouement, etc. Et cela peut changer au fil du temps, rappelle M. Guénette. Pour certaines personnes, le travail n'est pas la priorité, mais un outil pour atteindre un équilibre de vie. François Quentin a fait ce choix. Il n'accepte que les contrats à court ou moyen terme, car il est toujours entre deux continents. « Je reviens d'un séjour de 6 mois en Asie », raconte le globe-trotteur de 38 ans, « et je repars pour les Antilles au printemps. Je reviens ici, je travaille pour me refaire et je repars. » Pour ce consultant en communication, l'idée n'est pas de vivre de sa passion, puisque sa passion, c'est le voyage. « Il m'arrive de me faire juger, dit-il, de me faire regarder de haut. On pense que je suis paresseux, pas très ambitieux, instable, loser. » La psychologue organisationnelle Julie Carignan rappelle que ce n'est pas accessible à tout le monde de gagner sa vie avec sa passion. Elle donne l'exemple d'un peintre ou d'un joueur de hockey, des milieux où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Selon elle, il y a une tendance à la pensée monolithique. Travail et passion sont liés. Il faut nuancer, note l'associée directrice chez Humans, aussi conseillère en ressources humaines, agréée, distinction fellowship. On n'a pas manqué sa vie parce que notre travail ne nous passionne pas. Mais il y a une pression sociale liée à cette perception. Et les réseaux sociaux ont contribué à ça. On y projette une image très léchée de sa vie professionnelle et personnelle. Mathieu Guénette ajoute que certains travailleurs ne croient pas au système capitaliste et refusent de suivre la cadence qu'il impose. Pour certains, selon lui, la priorité, c'est la famille, un projet personnel, un sport. Leur travail ne les embête pas, mais c'est une commodité tout simplement. Et ce n'est pas nécessairement un recul de voir les choses ainsi, souligne Estelle Morin, psychologue et professeure titulaire à HEC Montréal. Le travail n'a pas toujours occupé la place qu'il occupe aujourd'hui. Sa définition a changé. Il y a 50 ans, le mot « travail » ne voulait pas dire « emploi », explique-t-elle. La recherche démontre que le mot « work » a été remplacé par le mot « job » dans les années 1940-1950. Dans son évolution, le travail est devenu une sorte de calcul, précise la professeure, un engagement entre un individu et une organisation. À la base, le travail a deux fonctions. Il est structurant, c'est-à-dire qu'il structure nos journées, il apporte une routine. Et il permet aux êtres humains de s'exprimer. À mesure qu'on a vidé le travail de son sens, il est devenu un contrat. Et donc, le travailleur soupèse ce que ça lui coûte de rester, ce que ça lui coûte de partir, illustre-t-elle. Réorientation. Même si la société entretient le narratif du dépassement de soi et de l'accomplissement au travail, certains travailleurs envisagent leur journée au bureau comme un contrat, point. On ne peut pas tous être des stars, glisse Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Et de toute façon, ce serait essoufflant à gérer et à nourrir au travail. Selon elle, il ne faut pas nécessairement douter, comme gestionnaire ou patron, du dévouement des gens qui n'aiment pas leur boulot. Ça ne dit rien sur leurs compétences ou leurs performances, dit-elle. Ils ne vont peut-être pas lever la main pour en faire plus, mais ils font ce qui est attendu d'eux. Il faut apprécier ça. C'est honnête. Et si le travailleur qui n'aime pas son emploi veut opérer un changement en 2026 ? La psychologue Julie Carignan propose une démarche en 3 étapes. Faire de l'introspection pour mieux cerner ce qu'on aime, vérifier si nos compétences et nos intérêts s'arriment avec ce qu'on aime, finalement, faire le pont entre les deux. On voit alors quel métier correspond à la fois à ce qu'on aime et ce dans quoi on est bon, dit-elle. Mathieu Guénette nuance. Parfois, ça prend seulement une petite réorientation pour bien se positionner et ensuite parvenir à faire ce qu'on aime. C'est une bonne stratégie. C'était « Ils n'aiment pas leur job » et après. Un texte de Maude Goyer, paru dans la presse.
Vivre à l'ère du Quetaoctet, un texte d'Alain Mekena, paru dans la presse. On manque de chiffres, puis encore, on manque de mots pour nommer ces chiffres. L'humanité, ou en tout cas ses machines, génère tellement d'informations que le vocabulaire peine à suivre. Et si on parle aujourd'hui très couramment de gigaoctets et de téraoctets, préparez-vous à entendre parler de quetaoctets et de zetaoctets. Des queta quoi? Le mégaoctet, le gigaoctet et le téraoctet sont bien connus. Ce sont des volumes d'un million, d'un milliard et d'un billion d'octets, l'unité de stockage de base en informatique. Selon une vieille croyance populaire, tous les mots prononcés par les êtres humains depuis l'aube des temps tiendraient dans 5 hexaoctets, soit 5 millions de téraoctets. En 2012, le linguiste américain Mark Lieberman a refait le compte. Si on numérisait toute la parole humaine de l'histoire en haute qualité, on obtiendrait 42 zetaoctets de données, soit 42 000 hexaoctets. L'ancienne estimation visait sans doute uniquement le texte écrit. La voix pèse plus lourd. Et déjà, 42 zetaoctets s'est dépassé. En 2020, en pleine pandémie, l'humanité a créé, copié et consommé 64,2 zetaoctets de données numériques. En une seule année, nous avons produit plus d'informations numériques que toute la parole humaine accumulée depuis des millénaires. Depuis, la cadence s'accélère, a récemment constaté IBM. En 5 ans, la création mondiale de données aurait triplé. En 2025, elle devrait dépasser les 180 zetaoctets. Ça va continuer de monter à la vitesse d'un météorite, ajoute IBM. Pour 2030, le volume annuel devrait atteindre un yottaoctet. Un yottaoctet équivaut à 1000 zetaoctets. Une fois ce seuil franchi, il faudra changer d'échelle. Nous viserons alors le premier quetaoctet qui équivaut à 1 million de yottaoctets. 1000 milliards de 1000 milliards. Ça ne s'arrêtera pas là. En 2024, le géant informatique américain Salesforce a estimé que d'ici 5 ans, les voitures connectées produiront quelque 25 gigaoctets de données à l'heure chacune, peut-être même jusqu'à 1 téraoctet de données par jour. Dans 5 ans, l'industrie automobile prévoit compter environ 2 milliards de véhicules connectés sur la route. 2 milliards d'autos, qui génèrent chaque jour 1000 milliards d'octets, c'est beaucoup. Et on ne parle que des voitures, pas des autres objets connectés. Tom Soderstrom est un ancien chef de la technologie de la NASA qui agit aujourd'hui comme futurologue pour Amazon, entre autres. Il cite d'autres exemples de moteurs de cette croissance exponentielle. Pensez à l'exploration spatiale, dit-il. L'intelligence artificielle, IA, va occuper un rôle central dans cette industrie toute naissante. Sauf que dans l'espace, il n'existe pas vraiment de centre de données accessible par Wi-Fi. Dans une sonde spatiale, un robot ne peut pas dépendre du nuage à tout moment. L'IA traitera les données sur place. Elle se synchronisera plus tard. Mais ça va plus loin, ajoute Tom Soderstrom. comment garder le contact avec des systèmes qui sont sans connexion constante à l'Internet? C'est là qu'entrent en scène les jumeaux numériques, une copie virtuelle des villes, des usines, des réseaux électriques, des réseaux routiers, de la Terre et de l'espace, permettra de simuler comment ces robots dont on a perdu le contact se débrouillent, dit-il. Des entreprises commencent déjà à prédire toutes sortes de choses grâce aux jumeaux numériques, dont le lieu où peuvent survenir différentes catastrophes naturelles. C'est ce que fait Voxelis, une jeune pousse de Vancouver, qui tente de prédire où surgiront les prochains incendies de forêt au Canada pour les combattre le plus rapidement possible. La réponse vient de l'analyse croisée de milliards et de milliards de données. Une monnaie pour l'IA. Et ce n'est pas tout. Pour devenir autonome, l'IA aura besoin de son propre moyen de paiement. Bientôt, Google vous proposera par exemple de recourir à un agent d'IA qui réservera pour vous une table au meilleur restaurant italien de Montréal. Google imagine que le restaurateur aura son propre agent d'IA qui automatisera la prise de rendez-vous. Les deux agents régleront peut-être même la note à l'avance. Google prédit que ces transactions entre deux agents d'IA se feront grâce à une crypto-monnaie stable comme celle que la Banque du Canada aimerait bientôt émettre. Google a justement annoncé à la fin de septembre avoir conclu une première transaction entre deux agents d'IA. Tout ça, évidemment, génère encore plus de données, puisqu'il faudra garder l'équivalent d'un reçu numérique pour chacune de ces transactions automatisées. Chaque paiement laissera une trace d'audit qui assurera l'authenticité de la transaction, explique Google. Comme vos reçus bancaires sur le coin du comptoir, ces reçus numériques vont s'empiler quelque part. Ce ne sera peut-être pas l'avalanche redoutée. On s'est aperçu après coup que seulement 2% des données créées en 2020 ont survécu jusqu'en 2021. Beaucoup d'informations est éphémère, parfois superflue. Mais ça ne nous empêchera pas d'en produire toujours plus. L'ère du quétaoctet pourra commencer. C'était « Vivre à l'ère du quétaoctet », un texte d'Alain Mekena, paru dans la presse.